d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent, en tout cas, sont des jeunes en fait totalement
et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Canu au 102.2 et c'est l'heure du Canu Info du vendredi. Ce soir, émission sociale et politique. On vous parlera de la situation des Roms 2 semaines après l'évacuation des bidonvilles à Lyon.
Et ensuite, on aura un petit reportage de quand même petit, pas du tout, 20 minutes sur les luttes sociales à Lyon et en France ces dernières semaines.
Ça sera aussi l'occasion de parler de la grève dans l'entreprise Blue Star Silicon, grève qui a commencé en fin de semaine.
Et on passera ensuite au National avec un autre reportage sur l'état d'urgence et la déchéance de nationalité de 1955 à 2015.
On vous parlera ensuite d'une loi antiterroriste qui vient de passer au Sénat, antiterrorisme et Internet.
Avant de parler de la manifestation de demain contre l'état d'urgence.
Et ensuite on passera à l'échelle internationale. On reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé à Cologne et on vous proposera une petite interprétation de tout ceci.
Et on parlera ensuite de la manifestation contre les cours de respect des femmes en Belgique.
Et le Canu Info du vendredi ne serait pas le Canu Info du vendredi sans sa rubrique gaz de schiste. On terminera donc sur le gaz de schiste. Et puis ensuite, l'agenda. On commence donc tout de suite par la situation des Roms. Mais avant ceci, petit générique local.
Prenons une ville, Lyon.
Lutte contre l'extrême droite, lutte contre les restructurations, manifestations de soutien à la ZAD et bien d'autres. Maintenant, dans le Canu Info, c'est la rubrique locale.
À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus
smart. La volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Les yeux, la précarité n'est pas minimale à Lyon. Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous, en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes. On chante en
récit.
Alors, on va commencer la rubrique locale en parlant des suites des expulsions des 3 bidonvilles qui ont eu lieu le 12 janvier dernier. Donc, c'était les 3 bidonvilles à Vemblin, Saint-Priest et Fécine, habitées essentiellement par des familles roms. Et il y a eu une expulsion de plus de 200 personnes et 25 OQTF données à ces personnes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc, 5 personnes ont été conduites au centre de rétention administratif. Une a été libérée tout de suite car le préfet s'est aperçu après coup qu'elle faisait partie du programme d'insertion I2E. Alors c'est quoi ce programme? C'est le programme insertion, emploi et école pour lesquels des familles roms vont se voir donner une place d'hébergement dans des villages mobiles à Saint-Priest et à Saint-Genis-les-Ollières. Si leurs enfants vont à l'école et s'ils cherchent effectivement de l'emploi. 4 autres personnes ont été libérées par le tribunal administratif 3 jours plus tard. Les autres personnes, donc plus de 200 personnes, ont été orientées par la DDCS, la direction départementale de la cohésion sociale, vers des hôtels. Donc, on pourrait penser qu'il s'agissait d'un souci de respecter la loi, plan froid et tout ça, mais en fait, il se révèle que c'est une stratégie mûrement réfléchie. Ils ont expulsé un maximum de familles parce qu'en fait, quelques jours plus tard, les personnes visées par une OQTF ont reçu une visite des fonctionnaires de la police aux frontières, la PAF, afin de leur notifier des assignations à résidence en vue de leur expulsion en Roumanie. Et leurs papiers d'identité ont été saisis. Donc, dans une communiqué publiée aujourd'hui sur Rébellion, la MRAP se demande comment et par qui la PAF a-t-elle été informée de la localisation de ces familles. Cet épisode met en lumière les pratiques scandaleuses de la préfecture et pose des graves questions sur le comportement de la DDCS et la communication de fichiers relatifs à l'hébergement d'urgence à des services de police. On peut ici citer notre cher préfet qui disait « La vraie réponse pour les Roms est en Roumanie ». Ensuite, on peut aussi détailler un peu plus les situations d'hébergement de ces personnes assignées à résidence qui sont hébergées dans des hôtels Formule 1. C'est des familles de 5 ou plus personnes qui se trouvent dans des hôtels à 45 minutes au plus du centre-ville. Ce qui réduit le nombre possible de visites et d'interactions avec l'extérieur. C'est des personnes hébergées dans la même chambre. Il est interdit de se faire à manger dans sa chambre. Il y a un micro-ondes pour tout l'hôtel. Il n'y a pas de frigo. Et des toilettes et des douches collectives sur le palier. Voilà, ça c'est la situation des personnes roms expulsées le 12 janvier dernier.
Et donc Delpoche, qui est le préfet, qui dit que la vocation des Roms, c'est de partir en Roumanie, nous fait beaucoup penser à Manuel Valls, qui disait à peu près la même chose il y a 2 ou 3 ans. Voilà, on va vous parler maintenant des luttes sociales à Lyon ces dernières semaines. Reportage de 20 minutes, il claque un petit peu au début, c'est pas un problème de votre chaîne, et après tout s'arrange.
2016, rassemblement de salariés de Bayer Crop Science à Lyon pour une revalorisation salariale. 9 janvier 2016, Sud Commerce et Services appelle à un rassemblement devant Intermarché Croix-Rousse. 19 janvier 2016, journée de grève et de mobilisation à la Poste de Lyon. 29 janvier 2016, grève et manifestation pour un service public de qualité et une nette augmentation du pouvoir d'achat. Rendez-vous 10h, place Jean Massin. 29 janvier 2016, la CGT et Sud appellent tous les militants qui le peuvent à venir à Saint-Jean-de-Dieu pour soutenir les camarades à l'entrée de l'hôpital à 13h30. 29 janvier 2016, soutien à un syndicaliste à 15h30 devant la poste de la Poste de
La France est en train de changer. Elle change beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément qu'on ne le croit. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit.
Ah bon?
Mais en fait, on en est où des luttes contre la précarité et la répression syndicale à Lyon? Reportage orienté et partiel du Canu Info du vendredi sur les dernières manifestations et rassemblements contre la répression syndicale. Retour sur la manifestation des services publics mardi 26 janvier.
Qu'est-ce qu'on fait dans cette manifestation?
Alors c'est une manifestation de la fonction publique, donc l'ensemble des travailleurs du service public, avec une grosse proportion aussi de salariés de l'éducation nationale, parce qu'il y a à la fois des revendications qui sont pour l'ensemble des services publics, qui portent sur la question de la place des services publics dans la société, parce qu'on sait que le développement des services publics, c'est une des premières façons de réduire les inégalités, en redistribuant quelque part les richesses, en permettant à tous et à toutes d'avoir accès à la santé, à l'éducation, par exemple, quel que soit son milieu social d'origine. Et comme nous, à la CNT, on le dit souvent, plus les services publics sont développés dans une société, plus ça réduit les inégalités. Et la place qui est attribuée aux services publics dans une société reflète les choix de société qui sont faits. Donc la première revendication commune à tout le monde, c'est celle-ci, c'est de défendre l'importance et le choix des services publics.
Pourquoi privatiser les services publics? Dans une vision moderne de l'économie, ces services, qui appartiennent à la collectivité, doivent plutôt être vus comme des opportunités d'investissement qui peuvent générer des milliards de bénéfices. Il faut les vendre. Ces 30 dernières années, on a eu la chance de voir de nombreuses privatisations. Par exemple, en Allemagne de l'Est, où il a été possible de racheter des centaines d'entreprises publiques à très bas prix, grâce à une équipe de liquidateurs internationaux, sans devoir demander l'avis de la population. Au Royaume-Uni, ce sont les chemins de fer qui ont été rachetés par des entreprises privées. Belle opération, car en moins de 3 ans, elles ont récupéré en subsides ce qu'elles avaient dû dépenser. À Paris, la distribution d'eau était entièrement passée dans les mains du privé. Malheureusement, la ville a tout racheté en 2001, car la population en avait marre de payer un peu plus et avait compris que les canalisations n'étaient plus entretenues. Heureusement, grâce à la crise, la population n'est plus un obstacle, car l'Union européenne exige les privatisations pour prêter l'argent. En Italie, bien que 95% de la population se soit prononcée en 2011 contre la vente de la distribution d'eau et que cela ait été inscrit dans la Constitution, l'Union européenne et les corporations continuent à faire pression. En Grèce aussi, les chemins de fer, la poste, des îles et la distribution d'eau sont à vendre pour une bouchée de pain et malgré la résistance de la population, c'est le moment de faire des affaires.
Au-delà de ça, il y a des revendications qui sont propres à tous les travailleurs de la fonction publique, qui sont celles du pouvoir d'achat, puisque depuis déjà un certain nombre d'années, le point d'indice sur lequel est calculé les salaires des fonctionnaires est gelé. Donc ça veut dire d'année après année, il y a une inflation, le coût de la vie augmente, mais le salaire des personnels de la fonction publique, lui, n'augmente pas. Donc il y a une perte de pouvoir d'achat et une dégradation des conditions de vie. Dans un contexte où en plus les cotisations retraite augmentent, ce qui provoque une réduction des salaires.
Le supermarché, le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait UHT. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le pouvoir d'achat.
Et puis au niveau des personnels de l'éducation nationale, il y a aussi, même de la fonction publique dans son ensemble, il y a une précarisation, puisque depuis 2014, on est passé de 14,6% de personnel précaire dans la fonction publique à 20%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une personne sur 5 travaillant dans la fonction publique est un précaire, n'est plus un fonctionnaire titulaire. Donc ce qui précarise les personnels et ce qui précarise les services publics. Et puis en ce qui concerne l'éducation dans son ensemble, là il y a aussi les revendications par rapport à la réforme du collège. La réforme du collège qui va s'appliquer à la rentrée prochaine, qui est une réforme audacieuse, ambitieuse, qui porte des problématiques intéressantes, de travail en équipe, de co-animation, etc. Mais qui malheureusement ne voit pas les moyens nécessaires qui lui sont donnés et donc qui fait plus l'effet d'un effet d'annonce pour faire des économies qu'une réelle volonté de renforcer l'égalité des chances et de permettre le développement d'une réforme pédagogique qui sera intéressante. Donc voilà toutes les raisons qui expliquent qu'on bat le pavé aujourd'hui.
Je ne suis pas personnel enseignant, je suis personnel administratif. On s'aperçoit que on est un peu les parents pauvres au niveau des rémunérations, des indemnités, on ne voit jamais. Et puis les conditions de travail vont en se dégradant aussi pour les personnels administratifs, ouvriers de service. Après, c'est vrai que là, je pense qu'il y a beaucoup de professeurs. C'est bien qu'on n'entende pas qu'eux. Et puis ils ont des revendications spécifiques qui sont aussi les leurs, qui tournent pas que. C'est, mais pour moi c'est une continuité. Moi je crois toujours à la grève. Mais pas que. Et puis aussi, on n'est pas dans une période très favorable, mais c'est justement maintenant qu'il faut se mobiliser et pas réagir de façon angoissée ou un peu viscérale. Et que c'est. En fait, il faut veiller au jour le jour. Après, les moyens de lutte, ils sont classiques. Hein, manifestation, c'est pour ça qu'on est là, grève. Et puis, toujours expliquer. Expliquer aux gens que les services publics, c'est en fait leur, c'est à eux quoi, c'est pour eux, c'est pas, enfin il y a un retour quoi, ils en ont besoin, c'est pas des impôts qui sont payés, il vaut mieux un hôpital public qu'une clinique privée par exemple, voilà.
Chef d'État, fils en patron, projet bilan, réforme du collège, abrogation, chef d'État, fils en patron. Projet bidon, réforme du collège, abrogation.
Je ne vois pas pourquoi on fait d'une polémique qui me paraît beaucoup plus inspirée par des raisons de politique avec un petit p que par des raisons de défense de l'intérêt général. Je ne laisserai pas les ambitions ou les calculs des uns ou des autres, ici ou là, venir perturber l'action des 3 années à venir.
Il est même capable de nous congédier demain matin à la première heure.
Et aujourd'hui, tu penses qu'une manifestation comme ça, ça peut être le début d'un mouvement? Comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette précarisation des services publics?
On veut savoir si on peut prendre notre après-midi. C'est-à-dire qu'on a un plan, là.
Attendez, les gars, je sais pas encore ce que veut dire monde de merde.
Ça peut, en tout cas, c'est l'objectif. Il n'y a pas de génération spontanée, donc les choses, elles se construisent. Elles se construisent petit à petit, elles se construisent dans les luttes, elles se construisent auprès des collègues. Et c'est ce que les militants syndicalistes du siècle, du début du siècle dernier appelaient la gymnastique révolutionnaire. C'est celle qui permet d'entretenir ces réflexes de solidarité et de lutte collective. Donc, on va espérer que c'est un premier pas parce que le contexte social le nécessite.
Que nous, dans l'éducation, il y a quelques années, on avait essayé de faire des trucs autour des contractuels et tout ça. Et en fait, c'est hyper difficile d'arriver à faire quelque chose et que après, ce sont aussi les précaires qui prennent en main leur lutte, tu vois. Donc, c'est hyper compliqué parce que les gens, ils sont... Déjà, ils osent pas. Quand après, ils commencent à être un peu nombreux, c'est compliqué après pour faire avancer les choses. Et puis, les revendications, elles sont difficiles parce que de toute façon, chacun, surtout quand t'es précaire, chacun essaie déjà de sauver son truc.
Chômage au fond de la vallée, c'est là la vraie fatalité. Voici quand la nuit étoilée, un sans-emploi nous est donné. Séraphin de droit, il se nomme, il est encadré et respecté. Aujourd'hui, pauvre petit homme, voilà que tu es licencié.
Alors vous aussi, vous êtes un déçu du socialisme?
Ah ben, je sais pas, moi j'ai jamais été socialiste, mais c'est décevant, ouais, c'est sûr. Pour des socialistes, ça doit être terrible.
Les ex-employés de l'usine Damien Nord, pour la plupart syndiqués à la CGT, sont poursuivis depuis 2 ans pour séquestration et violence en réunion. En 2014, ils avaient retenu 2 cadres pour protester contre la fermeture de leurs usines. La mobilisation continue et hier, jeudi 4 février, plus de 10 000 personnes en France et au moins 400 personnes à Lyon se sont rassemblées pour dénoncer la répression antisyndicale.
Car c'est bien en France que s'est abattue une répression policière et juridique sans précédent.
Alors, Michael Wemin, est-ce que la violence fait partie de la lutte syndicale jusqu'à la séquestration?
La violence, c'est d'abord de perdre son emploi. Quand on est dans un groupe comme Goodyear qui fait 2,5 milliards de profits après impôts, qui verse 800 millions d'euros de dividendes aux actionnaires, qui délocalise la totalité de notre production, nos machines, et qui décide de fermer notre site industriel et de mettre 1170 personnes à la rue avec... 12 suicides depuis la fermeture de l'usine, personne n'en parle, ça c'est de la vraie violence. Des divorces, des ventes de maisons, des enfants qui sont désœuvrés complètement parce que le papa a perdu son emploi. Moi je pense que la violence aujourd'hui c'est celle-ci. Le 31 octobre 2011, on a eu la visite sur le parking de Goudjurania de quelqu'un qui depuis est devenu le président de la République. Vous savez, le moi, je, quand je serai président.
François Hollande, quel président comptez-vous être?
Un président qui d'abord respecte les Français, qui les considère. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout et en définitive responsable de rien. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres qui ne pourraient pas rentrer dans un conflit d'intérêts. Moi, président de la République, je ferai en sorte que les partenaires sociaux puissent être considérés, aussi bien les organisations professionnelles que les syndicats, et que nous puissions avoir régulièrement une discussion pour savoir ce qui relève de la loi, ce qui relève de la négociation.
Aujourd'hui, il fait pire que ce qui avait été fait avant, alors que quand on a voté pour lui, on s'est dit on va enfin se débarrasser de ce qui s'était passé avant pour essayer d'avoir mieux. Non seulement notre usine est fermée, et en plus maintenant on va aller en tôle. On va aller en tôle parce qu'on a tenu tête à une multinationale puissante, et qu'aujourd'hui, moi je continue avec d'autres camarades de la CGT de dire que ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. On va plafonner les indemnités de licenciement pour les salariés dans les TPE, PME. On est en train de faire le travail du dimanche pour tous. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. 40 milliards d'allègements de charges pour les multinationales, pas un emploi créé, le chômage qui continue. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Le tocsin. Cette fois, c'est la révolution.
La révolution.
Vous pouvez m'en croire ?
j'en viens.
Et moi, je tenais à passer un message. Je l'ai dit à chaque fois que j'ai eu l'occasion de le dire. Je demande aux gens d'arrêter de d'exprimer leur colère dans les urnes en votant Front National. La colère doit s'exprimer dans la rue.
Parce que si tout ce qu'on peut avoir à la place de la droite qu'on a eu pendant 30 ans, c'est ça, c'est la dernière fois qu'ils votent, les mecs, c'est sûr.
De tout temps, il y a eu 36, il y a eu 69, il s'est passé un certain nombre de choses. Les gens sont descendus dans la rue. C'est pas François Hollande qui va changer les choses. C'est à nous maintenant de reprendre le pouvoir. Quand on a voté pour lui, on a essayé de faire en sorte que ce soit moins pire que ce qu'il y avait avant. Moi, je faisais partie de ceux qui n'ont pas voté pour Hollande, qui ont voté contre Sarko. Je pense qu'on était nombreux comme ça. On est tous les cocus dans l'affaire, sincèrement, aujourd'hui. Et moi, je suis doublement cocu. J'ai perdu mon nom et je me retrouve en tol. Augustin.
Oh, allez, tire au flanc là-bas. Venez prêter main forte à la révolution, sacrebleu.
Répression d'un syndicaliste à la poste. En janvier, mobilisation autour d'un syndicaliste menacé de licenciement à Lyon. On repasse avec plaisir un interview du Canu Info du mercredi.
Alors oui, alors donc ta question c'était pourquoi est-ce qu'il passe en conseil de discipline ? Donc ça dépend, alors il y a plusieurs versions, il y a la version d'abord de la direction.
Allez, commence par celle-là.
Alors la version de la direction, c'est, alors et, deux choses, on lui reproche deux choses, c'est le refus...
T'as pas trop compris ce qu'il lui reprochait, j'ai l'impression.
Non, si, j'ai bien compris, mais c'est... Alors, donc, c'est refus d'obéissance, insoumission à l'autorité et propos irrespectueux envers sa hiérarchie.
Oh là là. Wow. Alors, c'est la classe, quand même.
Oui, c'est pas mal, hein, bah, pour les gens qui sont anti-autoritaires, hein, ça fait un argument pour venir. Oui, alors, les propos, d'ailleurs, irrespectueux, ça, on sont notés clairement dans le dossier, c'est marqué, il a dit, je m'en branle. C'est vrai qu'il est un peu grossier. Voilà. Alors, par contre, la vérité, c'est que ça suffit. Enfin, c'est pas des raisons valables pour licencier quelqu'un. Surtout que le refus d'obéissance, il est lié au fait qu'il voulait prendre une pause à l'heure où et au moment où tout le monde prend sa pause et où il prend toujours sa pause habituellement. Et sa chef lui a dit de ne pas prendre sa pause. C'est là qu'il a dit je m'en branle. Donc voilà, c'est ça. Refus d'obéissance, bon bah je pense que quand on lui dit de faire des trucs débiles, il veut pas les faire. Ce qui devrait être le cas de toutes les personnes saines d'esprit. Et voilà. Alors en fait, pourquoi lui il passe aujourd'hui en conseil de discipline pour licenciement? C'est parce que c'est une des personnes à la poste à Bellecour là qui est le plus vindicative, qui est le plus la plus combative pour les conditions de travail, pour pas que la direction détruise un peu plus fort la vie des collègues et pour que le travail puisse se faire dans de bonnes conditions. Il a participé à plein de choses, à des mobilisations qui ont fait que des CDD se sont transformés en CDI. Et le fait qu'il soit là, souvent fait peur à la direction qui se rend compte qu'elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut parce qu'il y a quelqu'un qui gueule assez fort.
Oui. Ceci dit, c'est pas le seul par chez vous qui se retrouve face à une procédure disciplinaire en ce moment, ça tombe un peu.
Alors, ça tombe, alors, effectivement, alors il y a dans la région, alors moi je suis pas au courant de tout, il y a beaucoup de procédures disciplinaires en ce moment, il y a même certaines personnes qui disent que c'est un plan social déguisé. Mais en fait, il y a effectivement... Alors, on peut donner quelques exemples. Hein. Alors, il y a par exemple des salariés à Rennes qui sont en procédure de licenciement. Eux, ce qu'on leur reproche, c'est de ne pas dire bonjour à certaines personnes. Je pense à des cadres. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont en procédure de licenciement.
Ah oui, des motifs sérieux quand même.
Voilà, ouais, tout à fait. Il y a un syndicaliste de Lyon 8 aussi qui a des problèmes avec la direction et avec notamment avec des trucs plus malins de son chef qui apparemment monte certaines personnes de ses collègues contre lui, etc. Enfin bon, bref, l'ambiance à la poste est pourrie et avec des gens comme mon collègue et ami d'ailleurs qui passe en conseil de discipline là, et ben c'est... c'est des gens comme ça qui vont nous permettre de résister et c'est pour ça que le plus important à dire c'est qu'il faut venir le soutenir et venir au rassemblement qui aura lieu donc pendant son conseil de discipline donc ce vendredi à 15h30 devant la poste de Bellecour place Antonin-Poncet
vendredi 29 janvier à 20h après 2 heures de conseil de discipline où près de 60 lettres de soutien et 20 témoignages de collègues ont été lus afin de prouver la disproportion entre la faute et la sanction demandée. Il s'en est suivi 45 minutes de délibération où aucun consensus n'a pu avoir lieu entre les délégués du personnel et la direction. Dans tous les cas, ce bureau n'a qu'un avis consultatif et c'est bien le directeur du service courrier-colis, DSCC, qui doit prendre la décision finale qui sera ensuite transmise sous 10 jours. Une sanction pour l'exemple n'étant malheureusement pas à exclure. 5,
6, 7, 8, 9, 2, 3, 4.
Le travail est en moi et je peux pas l'arracher.
J'ai craqué. J'ai cru que j'allais mourir dans l'usine.
1, 2.
L'homme, il s'adapte à n'importe quoi quand il est condamné. C'est étonnant, hein?
Je dirais que c'est un ciment, le travail. C'est un ciment de l'être humain.
Moi, je préfère quand il y a une panne.
Voilà, quoi.
Des fois, ben, je suis ailleurs. Ben ouais, c'est mes mains qui travaillent toutes seules, en fait.
Non, non, vous ne criez pas ici. Vous améliorez peut-être, mais vous ne criez pas, non.
C'est pas pote, c'est bon, il y a le rythme. Et je me casse. Je m'enfuis de l'usine.
J'ai pas l'impression de participer en fait. Je vois pas mes traces.
Voilà, c'était un reportage sur les luttes sociales en France et à Lyon ces dernières semaines. Et vous avez pu entendre dans ce reportage une bande son qui est sortie tout droit du film C'est quoi ce travail de Luc Joule. Et ce film, vous pouvez le voir le 23 février au cinéma Le Zola. C'est au 117 cours Émile Zola à Villeurbanne. Et pour continuer sur l'actualité sociale, on va vous parler d'une grève illimitée depuis une semaine. Le préavis a été déposé samedi dernier et ça se passe à Blue Star Silicone.
Voilà, Blue Star Silicones, et qui n'est donc pas aux États-Unis malgré ce fabuleux accent.
Donc, ma mère était prof d'anglais.
C'est une entreprise donc qui est basée à Saint-Fons. Alors, qu'est-ce que c'est que cette entreprise? Ben, c'est une entreprise qui fournit du silicone, comme par hasard. Et donc, c'est une entreprise qui est créée en 2007 suite au rachat de Rodia Silicone par les très chinois China National Blue Star Corporation. Alors, faut savoir que pour cette...
T'as un bel accent chinois.
T'as vu un peu. Alors, faut savoir que tout va très bien pour les finances de cette entreprise, puisque le chiffre d'affaires est en constante augmentation, les salariés ont un rendement tip-top, sauf que tout semble augmenter, sauf les salaires. Et c'est donc dans le cadre des négociations annuelles, donc obligatoires entre la direction et les salariés, que la direction a refusé l'augmentation générale de 50 euros demandée par les salariés. Et donc suite à ça, il y a une grève qui s'est enclenchée samedi dernier, donc 30 janvier. Et alors, il faut savoir que depuis un petit moment, les travailleurs subissent une pression sur leurs conditions de travail, avec notamment des équipes qui sont de plus en plus en sous-effectif. Et que malgré ça, en fait, il y a quand même eu une productivité qui a été augmentée. Et donc, malgré cette augmentation de productivité, etc., et ben, l'entreprise refuse d'augmenter les salariés en justifiant ce refus par le fait qu'ils font dans ce qui se fait dans les autres entreprises du secteur et ils n'ont pas raison de donner mieux. Super. Et donc, en fait, le truc que souhaite mettre en place la direction, c'est en fait un traitement différencié pour les cadres qui sera alors augmenté de façon individuelle. Et donc, un syndicaliste de la CGT dit que la direction ne mesure pas l'importance de faire des augmentations générales. Les augmentations individuelles sont aléatoires. Même si l'on travaille bien, il suffit que notre chef nous ait dans le nez pour ne pas l'avoir. L'augmentation individuelle n'est pas forcément équitable en réalité. Donc là, c'est vraiment un management à la mode néolibéral qui amène, comme d'habitude, à la mise en concurrence des travailleurs et à la destruction des solidarités internes. Et donc, ces salariés, dénonçant l'inéquité de la situation, ont commencé depuis samedi 30 janvier une grève illimitée.
donc qui consiste au fait que chaque équipe s'arrête 2 heures avant leur fin de poste. Alors pour l'instant, la grève est plutôt bien suivie dans l'entreprise et le moral est plutôt bon.
Canu Info.
Gendarmerie nationale, arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info. Nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Jusqu'ici, tout va bien.
C'est Canu Info, en fait.
En 1955, alors que l'insurrection indépendantiste en Algérie prend de l'ampleur, le gouvernement et l'Assemblée de la 4ème République adoptent une loi d'exception, l'état d'urgence. Il s'agit de donner à la police et à l'armée des pouvoirs spéciaux leur permettant de mettre en place des techniques de contre-insurrection. 50 ans plus tard, en 2005, les banlieues des villes françaises entrent en insurrection à leur tour. Le gouvernement, dirigé par Dominique de Villepin, met en place, lui aussi, les lois exceptionnelles de 1955. À nouveau, c'est l'état d'urgence.
Ce contexte particulièrement grave, le président de la République a décidé de convoquer demain matin le Conseil des ministres et de mettre en œuvre les dispositions de la loi de 1955.
Le Premier ministre sur le plateau de TF1, de Villepin, 2005.
Partout où c'est nécessaire, les préfets pourront, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, appliquer le couvre-feu s'ils l'estiment utile, pour permettre un retour au calme et assurer la protection des habitants. C'est notre première responsabilité, c'est notre premier devoir.
Extrait d'un texte de Sylvie Thénault dans la revue Le Mouvement Social en 2007. Le lundi 7 novembre 2005, Dominique de Villepin informait les Français de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence. Toutefois, comme le président Jacques Chirac, il a évité d'employer le terme « état d'urgence », préférant parler de la loi de 1955, terme plus neutre. Utiliser ce mot, c'était reconnaître aux yeux du monde que la France était à feu et à sang. C'était affirmer qu'un état d'exception était devenu indispensable après une dizaine de jours de violence dans le pays. Le Premier ministre Dominique de Villepin, prudent, ne parla que de couvre-feu. L'état d'urgence permet aux représentants de l'État, préfets dans les départements et, en 1955, gouverneur général en Algérie, d'instaurer un couvre-feu, de réglementer la circulation et le séjour dans certaines zones géographiques, de prononcer des interdictions de séjour et des assignations à résidence contre des individus. Il autorise aussi la fermeture de lieux publics, tels que des salles de spectacle, des cafés ou des salles de réunion. Il autorise aussi l'interdiction de réunion, de rassemblement, la confiscation d'armes détenues par des particuliers, mais aussi le contrôle de la presse, des publications, des émissions de radio, ou encore des projections de cinéma et des représentations théâtrales. Enfin, et surtout, il dessaisit la justice de prérogatives essentielles. Les autorités administratives obtiennent le droit de pratiquer des perquisitions, de jour comme de nuit, et la justice militaire peut être déclarée compétente. En 1955, de telles mesures répondaient spécifiquement aux besoins des autorités confrontées au développement d'une insurrection en Algérie. Comment, alors, cette loi, votée comme une loi de circonstance, peut-elle être remise en vigueur un demi-siècle plus tard, en 2005, aujourd'hui en 2015, dans une conjoncture totalement différente? Le recours à l'état d'urgence serait-il l'indice d'un héritage colonial non assumé, mais ressurgissant à la faveur de l'actualité?
La guerre, c'est utiliser tous les moyens dans notre démocratie, dans l'état de droit, pour protéger les Français. Donc c'est en effet l'état d'urgence. Nous allons voir si nous allons le prolonger. Le temps nécessaire, nous ne pouvons pas vivre tout le temps avec l'état d'urgence. Mais tant que la menace est là, nous devons utiliser tous les moyens.
Ça peut être pour toujours, that could be forever.
Jusqu'à ce qu'on puisse évidemment en finir avec Daesh. C'est une guerre totale et globale que nous mène le terrorisme. Donc la guerre que nous devons mener, elle doit être aussi globale, totale et d'une certaine manière impitoyable. Mais cette guerre ou ce risque terroriste, nous allons le connaître avec tant que ne cesseront pas les convulsions au sein du monde arabo-musulman. Et puis nous avons dans nos propres sociétés, en France, mais en Europe, des centaines, des milliers de jeunes qui ont basculé ou qui peuvent basculer dans cette radicalisation. Oui, oui. Donc le danger, la menace sont aussi au sein de nos sociétés. C'est tout le travail du renseignement, mais c'est aussi la mobilisation de la société.
Le régime impérial fonctionne invariablement selon la même dramaturgie. Quelque chose, pour une raison quelconque, se manifeste comme étranger à l'Empire, ou comme tentant de lui échapper, d'en finir avec lui. Cet état de choses définit une situation de crise, à quoi l'Empire répond par un état d'urgence. Alors, seulement, dans le moment éphémère de ces opérations réactives, on peut dire « l'Empire existe ». D'après Tikkun, contribution à la guerre en cours, 2001.
C'est pourquoi, comme l'a annoncé le président de la République devant le Congrès, le gouvernement a décidé de soumettre au Parlement l'extension de la déchéance de nationalité à tous les binationaux.
À notre empire colonial.
À notre empire colonial.
Lecture d'un article de Giorgio Agamben, 1993. Il est important de remarquer qu'à partir de la Première Guerre mondiale, nombre d'États européens commencèrent à introduire des lois qui permettaient la dénaturalisation et la dénationalisation, c'est-à-dire la déchéance de nationalité de leurs propres citoyens. La France le fit la première, en 1915, avec les citoyens naturalisés d'origine ennemie, d'origine allemande par exemple. En 1922, l'exemple fut suivi par la Belgique, qui révoqua la naturalisation des citoyens qui avaient commis des actes antinationaux pendant la guerre. En 1926, le régime fasciste italien promulgua une loi analogue envers les citoyens qui s'étaient montrés indignes de la citoyenneté italienne. En 1933, ce fut le tour de l'Autriche, et ainsi de suite jusqu'en 1935, lorsque les lois de Nuremberg séparèrent les Allemands en citoyens de plein droit et en citoyens sans droit politique. Ces lois et l'énorme masse d'apatrides qui allait en résulter ont marqué un changement décisif dans la vie de l'État-nation moderne qui s'affranchit définitivement des notions naïves de peuple et de citoyen. Giorgio Agamben, 1993, dans Moyen sans fin, note sur la politique.
J'ai vu des fins et des moyens obscurcir l'histoire. Matérialisme économique, aliénation du noir. J'ai vu un soir un type se goinfrer comme un triple chien. Il me dit tu vois de clos j'ai faim et la fin justifie les moyens. 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 La fin.
La fin justifie les moyens, c'était MC Solar 1994 sur Prose Combat. De loi antiterroriste en loi antiterroriste, la République française resserre donc le contrôle de sa population depuis 1955 et ça s'est intensifié après 1995 et les premières lois Vigipirate qui se sont succédées depuis, qui sont renforcées même depuis. La volonté récente de prolonger l'état d'urgence en France au-delà du 26 février, c'est la date jusqu'à laquelle il court en ce moment, et la volonté également de l'inscrire dans la Constitution, tout comme la déchéance de nationalité, doit évidemment être plus que jamais combattue. Et ça commence dès demain, notamment à Lyon, au départ de la place Jean Massé à 14h. On en reparlera
pour l'agenda si on a le temps de le faire. En attendant, on peut parler de la loi antiterroriste tout à fait liée.
Eh oui, parce qu'il y avait déjà des trucs qui sentaient pas bon avant l'état d'urgence. Souvenez-vous de cette petite loi antiterroriste dont on vous parlait l'année dernière. Et de quoi elle parlait entre autres ? Elle parlait d'Internet. Alors qu'est-ce qui va se passer sur Internet selon la nouvelle loi qui vient d'être acceptée par le Sénat, adoptée au Sénat ? Donc en fait, cette loi, elle vise la pénalisation de la consultation de sites web terroristes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un site web terroriste ? C'est un site en fait qui va relater des actes terroristes, bien sûr. Et dans les actes terroristes, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les atteintes à la vie, mais pas que. Il y a aussi les délits financiers, il y a aussi la détérioration de biens ou les infractions relatives au mouvement dissous par arrêté. Donc voilà, en fait, c'est un peu tout et n'importe quoi et ce que les juges voudront. Et donc, c'est une définition très large du terroriste. Alors, elle est définie exactement dans la loi, parce que moi, j'adore faire chier les auditeurs en récitant des lois. Donc, tenez-vous bien, article 421.2.5.1. Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations, soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni.
Ne rigole pas, c'est la loi.
Est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Donc voilà, super, 2 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende. Et là aussi, en fait, on se rend compte que les mots, ils sont vachement troubles, puisqu'on est dans des questions d'actes terroristes ou d'organisations terroristes qui ne sont pas du tout définies. Mais rassurez-vous, tout le monde n'est pas visé, parce que certains auront quand même le droit de consulter les sites terroristes avant qu'ils soient dissous et ne risqueront rien. C'est. Alors là, je vous recite cette belle loi. Le présent article n'est pas applicable lorsque la consultation résulte d'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public. Donc voilà, ceux qui ont un vrai travail avec un contrat de travail pourront aller voir des sites terroristes comme rebellion.info et les autres risqueront peut-être bientôt d'aller en prison et de payer la modique somme de 30 000 euros d'amende. Donc voilà pour cette nouvelle loi qui va bientôt rentrer dans les bacs. Comme disait MC Solar en 94.
C'était MTM, bague dans les bagues.
Ah putain, mais tu crois que MC Solar, bon bref, on arrête. Et donc la suite.
Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde. On évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et d'exploitation de gisements de gaz de schiste,
les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Alors que jeudi 4 février ont débuté les festivals du carnaval de Cologne, le plus célèbre d'Allemagne, qui va durer une semaine et qui se voit inauguré par la nuit des femmes qui sont...
Alors il y a un micro qui vient de sauter en fait, de faire un petit souci de micro.
Bref, donc qui va se voir inauguré par la nuit des femmes, un dispositif sécuritaire impressionnant est déployé. 2 fois plus de policiers que l'année dernière, équipés aujourd'hui de petites caméras pour pouvoir de suite tirer le portrait d'éventuels délinquants, des salles supplémentaires dans la gare centrale pour accueillir d'éventuelles plaintes et des security points où les femmes peuvent se réfugier si elles se sentent en danger. Bref, un mois après les agressions subies par des femmes dans la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne, les enquêtes sont toujours en cours, les rumeurs enflent et les médias nous inondent de préjugés racistes. C'est encore l'occasion pour certains, racistes donc, mais aussi sexistes, d'instrumentaliser ces violences pour stigmatiser encore plus certaines catégories de population, mais aussi pour tenter de juger et de normaliser les comportements des femmes. En effet, cette stigmatisation de l'autre, qui se voit porteur de lourds préjugés et se voit représenté comme le sexisme et le machisme incarné, permet aux Occidentaux de se dédouaner et de se déculpabiliser. Comme si la domination masculine et patriarcale était étrangère à la culture occidentale et que nous vivions dans un lieu où aurait disparu le patriarcat. alors que ces Occidentaux s'approprient tout autant les femmes qu'ils disent protégées en les soumettant à leur conception de relations entre sexes qu'ils ordonnent selon leurs normes masculines. Ces événements et leur traitement est bien révélateur de la pensée raciste et impérialiste dominante, ce qui permet un peu plus à nos États de durcir leur politique répressive et de nourrir leur racisme institutionnel. Mais c'est l'occasion aussi pour moi de redire l'importance de traquer le sexisme et le racisme partout, qu'il n'y a pas de terrain neutre et qu'il faut refuser l'idée patriarcale et occidentale, que cela serait miraculeusement absent de certains lieux, de certaines relations et qu'on pourrait y échapper. C'est aussi l'occasion de rappeler que les agressions, le harcèlement et les humiliations subies par les femmes n'ont pas lieu seulement durant la nuit de la Saint-Sylvestre, mais que cela se passe au quotidien et souvent par des hommes que l'on connaît. Et enfin, que c'est conjointement contre le sexisme et contre le racisme qu'ils font continuer à lutter.
Et de l'Allemagne en Belgique, pour parler d'une petite manifestation qui a eu lieu hier, jeudi après-midi, et qui rassemblait des associations féministes, des femmes et des hommes, pour protester contre la volonté du secrétaire d'État à l'asile et à la migration de Belgique, Théo Franken, de mettre en place des cours de respect de la femme pour les migrants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Belgique ? En fait, suite aux événements de Cologne, le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, il a pensé qu'il était opportun de mettre en place des cours de respect de la femme sur le modèle norvégien, parce que ça existe déjà en Norvège. Et donc, Théo Franken, juste pour faire un petit point sur lui, c'est un membre du Parti nationaliste flamand. Il pense qu'il faut apprendre aux demandeurs d'asile à bien traiter les femmes parce que, effectivement, souvent les migrants sont des hommes célibataires et, je cite, ils ne sont pas habitués au contact avec les femmes. Donc, il nie de sa part le lien avec les incidents de Cologne. Mais, et il dit aussi que cette mesure n'est pas stigmatisante, mais nécessaire. Alors, j'ai eu l'occasion d'avoir un petit aperçu du guide de savoir-vivre qui est en train d'être diffusé en Belgique, donc à cet objectif, qui est un guide illustré très joli que je vous invite à chercher sur Internet et qui montre que, par exemple, c'est OK de parler aux femmes et que parler aux femmes, c'est la même chose que parler aux hommes. Et que, par exemple, de se vêtir d'une tenue sexy, ce n'est pas la même chose que de vouloir du sexe. Et surtout qu'il ne faut pas siffler aux femmes dans les centres d'accueil. Donc c'est ça que les demandeurs d'asile vont apprendre pendant ces 20 heures obligatoires de cours de civilisation belgique, de l'histoire de la Belgique et de respect de la femme. Donc, cette manifestation féministe, elle voulait pointer les doigts du fait que, voilà, le viol est souvent passé sous silence. Mais là, comme des personnes d'origine étrangère sont concernées, alors on s'y intéresse. Et voilà, et ça nous fait penser à la stratégie bien connue des sociétés occidentales de dire que la domination patriarcale, évidemment, ça n'existe pas chez nous. Et qu'on va enseigner l'égalité aux autres.
Et civiliser le barbare. C'est un peu ça, l'idée. Depuis, et ça fait longtemps, hein, c'est depuis la fin du 19e siècle au moins qu'on nous parle de ça. Il est l'heure, le temps passe, de la fameuse rubrique du Canu Info du vendredi. On va vous parler de l'actualité du gaz de schiste.
Ouais. Oui. Vous êtes super contents et contentes. Donc, je vais vous parler de... Alors c'est un nom, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est Choupac.
Ouais, ça
c'est parfait. C'est parfait, hein, c'est ça, ouais. Donc, qui réclame des millions d'euros à l'État français. Alors, qu'est-ce que c'est Choupac ? C'est un exploitant du gaz de schiste. Alors, pourquoi on en parle maintenant ? En fait, je vous rappelle ce qu'on vous a dit au dernier Canu Info. Du vendredi.
Mais ils s'en souviennent, je pense, non ? Un rappel quand même.
Non, mais juste que, en fait, c'est le contexte, c'est qu'il y a eu le rendu la semaine dernière du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a réattribué le permis de Montélimar à Total. Et donc, maintenant, c'est l'entreprise Choupac qui rentre dans la danse. Alors,
Total et Choupac, ce sont en fait les deux firmes qui se sont vues attribuer en 2010 par l'État français les premiers permis d'exploration du gaz de schiste. Et donc là, bah maintenant, Choupac, il réclame plusieurs millions d'euros d'indemnité à l'État. Et donc bah, cette demande un peu farfelue est examinée ce vendredi même, aujourd'hui même. Donc alors pourquoi il y a eu tout ça ? Eh ben en fait, Choupac est un peu énervé car comme Total, il s'est fait supprimer ses permis d'exploration donc en 2011. Donc pour lui, c'était dans l'Aveyron et en Ardèche. Et depuis cette suppression de permis, eh ben il essaye de les récupérer. Et donc la première tentative a d'abord eu lieu. Donc il y a quelques années, donc en 2013. Donc il a voulu d'abord s'attaquer à la loi en avançant le fait que le texte n'est pas conforme aux droits et aux libertés garanties par la Constitution. Donc ça, c'était en 2013. Et le Conseil constitutionnel lui a dit d'aller voir ailleurs. Donc Chou Blanc. Et Choupac n'a pas renoncé. Il a changé de stratégie. Et en attaquant l'annulation de ses permis devant le tribunal, le fameux tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Et donc, exactement comme vient de le faire du coup Total, qui a pu le récupérer lui, sauf que eux, ils ont peut-être été un peu moins malins, puisque l'abrogation a été confirmée en décembre dernier. Donc c'est mort pour récupérer le permis. Et donc, le dernier recours, ça a été d'essayer de grappiller quelques millions de dollars. Et c'est donc l'objet de l'audience de ce vendredi, très exactement. Et donc, pour obtenir ces millions de dollars, la société s'appuie sur une jurisprudence du Conseil d'État qui stipule que l'administration... Ça rigole à côté de moi, sorry. Que l'administration a le droit d'interdire certaines activités, mais doit, le cas échéant, indemniser les professionnels exerçant. Donc évidemment, Choupac a dit, on m'a interdit l'activité d'exploiter le gaz de schiste, donc on doit m'indemniser le fait de cette interdiction. Et donc, concrètement, il réclame le remboursement de ce qui serait un manque à gagner, c'est-à-dire un bénéfice qu'il ne réalisera pas pendant 50 ans en n'exploitant pas les gisements. Donc bon, alors le patron de la société, le Martin Choupac, il est suisse, il réclamerait 1 milliard de dollars. Alors après, il plane un peu, mais en fait, il faut savoir que c'est des permis d'exploration. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas du tout le truc d'exploitation derrière, même si ça peut être un peu sous-entendu. Mais du coup, on espère que quand même ça va pas passer parce que ça serait quand même un peu abusé. Donc voilà, et donc ça c'est examiné aujourd'hui même, ou ça a été examiné. On ne sait pas trop le montant qui a été réclamé, etc. On vous en dira plus la semaine prochaine. Et donc voilà.
Et ouais. Tout de suite, c'est l'agenda.
Et oui, et donc maintenant, oui, on enchaîne sur l'agenda.
Je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou.
Oh oui, putain. Oh, quel bordel.
Super jingle. Ah ouais, non mais ça, t'as bien fait de bosser pour un jingle. Hein, bien joué. Je dis pas.
C'est moi.
Ah. Et voilà. Donc du coup, après ce super jingle, ce n'est pas moins de 3 soirées qu'on vous propose ce soir au Canu Info du vendredi soir. Alors si toi aussi t'as aimé le jingle ce soir, tu peux aller à 19h, alors ça a déjà commencé, donc du coup bien sûr si t'es sur ton vélo, pédale plus vite, sinon si t'es dans le métro, trépigne plus vite, tu peux aller au local, un nouveau local TPGIQ++, autogéré de Lyon. Alors TPGIQ++, ça veut dire trans, pédéguine, intersexe, queer, bisexuel, asexuel, 3 petits points, donc je veux plus. qui du coup ouvre ses portes ce week-end. Il y a déjà eu ce mardi une réunion à 18h pour présenter les projets, les envies, tout ce qui pouvait se passer dans ce local. Et ce soir, c'est la projection de courts-métrages, donc une DIY, qui sont ouverts à tous et toutes. Et puis il y aura un petit apéro bouffe, discussion après, pour présenter le local. Sinon ce soir, tu peux aussi aller, auditrice ou auditeur du Canu Info, à l'atelier pour soutenir le projet CSA. Donc le projet CSA, c'est quoi? Bah, c'est là, tout simplement, le projet du centre social autogéré qui, depuis 2 ans, récolte des fonds et puis cherche un local pour mettre en place ce centre social. Ce soir, pour récolter des fonds, il te propose de manger des frites et de regarder Dick & Nick en buvant des bières, bien entendu, à prix libre. Ici, tu as passé toute la nuit à regarder Dick & Nick ou aller au local TPGIQ++ à l'Oblique, qui du coup, bien sûr, je n'ai pas donné l'adresse, mais c'est 15 avenue Einstein à Villeurbanne.
C'est à la Doua.
Magnifique. Et donc, si tu n'as pas pu aller ni au local TPJIQ++ ni à l'atelier ce soir, c'est parce que bien sûr tu es à l'étranger. Et du coup, demain, tu vas pouvoir participer à une mobilisation transnationale contre les politiques de l'Union européenne contre les migrants et puis contre la guerre qui est faite aux migrants. C'est-à-dire que c'est une mobilisation qui est en mémoire au 6 février 2014, où la guerre civile espagnole a quand même tué 15 migrants qui essayaient de passer la frontière avec Ciota. Et donc il y a une manifestation organisée à Rabat, à Ciota, à Berlin, à Idomeni en Grèce, à Prague, à Dresden, à Strasbourg, à Gênes et peut-être d'autres, mais pour l'instant on a que celle-là.
Prends vite un billet d'avion.
Voilà, sauf si tu habites à Rabat, Ciota, Berlin, Idomeni, Prague, Dresde, Strasbourg, Gênes ou ailleurs.
Mais tu ne captes pas, Kenyo.
Voilà.
Mais tu
sauf si tu écoutes sur Internet.
En ligne.
Ouais, ou alors si tu as regardé sur rebellion.info, peut-être. Demain, on rappelle qu'à 14h, il y a une manifestation pour mettre fin à l'état d'urgence au départ de Jean Massé. Et si, après être allé à Jean Massé, tu as envie de passer, par exemple, par la librairie Terre des Livres, 86 rue de Marseille, à 15h, tu pourras aller à la rencontre autour de la revue L'Abordage et du livre de Yves Bonnardel qui s'appelle « La domination adulte, l'oppression des mineurs ». Ce sera l'occasion de discuter de l'agisme et des discriminations liées à l'âge. Le but, c'est de présenter ces deux projets, mais c'est aussi de discuter ensemble autour de ces différentes questions. Le soir, tu vas pouvoir aller retourner à la Doua, au 15 avenue Einstein à Villeurbanne à la Doua, donc au local TPGIQ++ autogéré, où une boum en mi-cité choisie te permettra de passer, je pense, un bon moment a priori. Et si t'es pas allé trop tard à la boum le lendemain, tu pourras te réveiller à 14h30 pour aller à l'Union départementale de la CNT 69 au 44 rue Burdeau, où tu pourras rencontrer Nathaniel, qui est un camarade nord-américain qui fait partie des, alors je te laisse prononcer, le International
Workers
of the World. Voilà, donc l'IYY, qui est du coup une organisation syndicaliste révolutionnaire nord-américaine. Et c'est dimanche 7 février à 14h30. Parfait. Voilà, je crois que c'est le métro Croix-Paquet. Mais on peut y aller en vélo quand même, c'est possible aussi. Et dès lundi, il y a une grève qui date du 1er février à Carbonne-Savoie, qui est une entreprise de Vénissieux qui fabrique du carbone. Mais du coup, ils sont en grève depuis lundi. Pas en Savoie du tout, à Vénissieux. Mais alors, une entreprise, je sais pas, ouais, ça doit venir de la Savoie. Mais du coup, ils appellent à une manifestation, donc tu vas les soutenir. C'est à 11h, 30 rue Louis Jouvet à Vénissieux. C'est derrière le McDonald's de Vénissieux, voilà, boulevard Julio Curie. Le soir, il y a toujours la permanence en soutien, la permanence juridique de soutien aux sans-papiers et aux sans-papières. Et les cours de langue de la commission antiraciste de la CGA, la plume noire, bien sûr, la commission, la permanence.